Alors, on va commencer notre 10e leçon dans notre série Le péché, les 10 commandements, la grâce. Aujourd'hui, on va voir les 10 commandements, un standard de conduite qui lie le chrétien. Autrement dit, la question qu'on avait regardée la semaine dernière, c'était les arguments, les versets que certaines personnes utilisent pour dire que la loi ne lie pas le chrétien après son salut. Et cette semaine, on va regarder les versets qui disent que oui, la loi continue d'avoir, elle lie le chrétien. Autrement dit, on se doit de la considérer, de lui obéir. OK. Quelle est la relation de la loi morale ou les 10 commandements envers le chrétien? On l'avait déjà examiné que, historiquement, 3 réponses ont été données à cette question théologique. La première, c'est que les pécheurs deviennent saints en obéissant à la loi, donc la position du légalisme. Alors, ça constitue vraiment une hérésie extrêmement dangereuse. Tous ceux qui croient véritablement cela et agissent conséquemment dans ce sens ne peuvent être réconciliés et acceptés de Dieu et ils périront éternellement. Donc, le légalisme, c'est tout simplement dire « je regarde les 10 commandements de Dieu » et je suis assez bon pour leur obéir à la perfection, et je vais être sauvé par ça. Alors ça, c'est le légalisme, c'est vraiment... Alors, c'est faux. La deuxième position, c'est que les chrétiens ne sont pas liés par la loi morale ou les 10 commandements, parce qu'elle aurait été supposément abolie. C'est une erreur très sérieuse, elle provient de la mauvaise interprétation de certains passages des Épîtres. Alors, la semaine passée, on avait regardé ces passages-là et on les avait réfutés. Alors, l'inévitable tendance de cette erreur est qu'elle conduit inévitablement vers l'antinomisme. En anglais, c'est « antinominianism ». Alors, en français, c'est « antinomisme ». « Anti », ça veut dire « contre ». « Nomis », ça veut dire « la loi », »,« contre la loi ». Donc, qui change, et le danger de tout ça, c'est vraiment qu'on change la grâce de Dieu en dissolution. Autrement dit, à cause qu'on a reçu la grâce, on pense que ça nous autorise à pécher comme on veut. Alors ça, c'est vraiment de l'antinomisme. Alors, l'erreur de considérer que la loi n'a plus sa place dans la vie du chrétien après son salut, ça conduit inévitablement vers l'antinomisme. Et la troisième position, c'est celle que nous, on a adopté, c'est que les 10 commandements sont une expression du caractère saint et immuable de Dieu et de sa volonté. Et de ce fait, ils sont un standard de conduite morale qui lie le chrétien. Donc, c'est la position que nous défendons et qui est inscrite dans la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. On va la voir tantôt. Donc, on va voir dans notre leçon 2 parties. La première, on va regarder les principaux versets qui démontrent que la loi a encore sa place dans la vie du chrétien après son salut. Après qu'on va avoir vu ces versets-là, on va regarder que la confession de foi, la partie de la 1689 qui exprime cela en détail. Alors, les versets prouvant que le décalogue lie le chrétien. Matthieu 5, versets 17 à 19. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Alors, la lecture du passage nous amène à faire 5 observations. La première, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Ceux qui prétendent que c'est le cas. Deuxième observation, le Seigneur est venu pour accomplir la loi. On a déjà regardé les deux manières principales, l'obéissance active, l'obéissance passive. On a déjà vu ça à plusieurs reprises. Troisièmement, l'obligation de la loi est perpétuelle. Il dit qu'il n'y a pas un iota qui va bouger jusqu'à ce que... Et quatrièmement, ceux qui enseigneront, ils feront le contraire, souffriront une perte. Alors, ceux qui enseignent, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés nécessairement, mais ils vont. Le Seigneur dit qu'ils vont subir une perte. Et ceux qui enseigneront et feront, comme le Seigneur dit, seront, eux, récompensés. Le Seigneur a accompli la loi morale de trois façons. Premièrement, il a obéi personnellement et parfaitement à ses préceptes pour ses élus de façon substitutive. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obéissance active. Pourquoi on l'appelle active? C'est parce que durant toute sa vie, il a obéi parfaitement à chacun des commandements de Dieu. Et en plus, pour lui, vu qu'il était sous la loi, qu'il était juif, il se devait à son époque d'accomplir à la fois la loi morale et à la fois les lois cérémonielles et civiles. La preuve, c'est que le huitième jour, ses parents l'ont amené. Alors ça faisait partie de la loi cérémonielle de l'Ancien Testament. Et plusieurs choses aussi durant sa vie. Il a accompli ça parce qu'il était juif et qu'il se devait d'accomplir. Mais après sa mort, le côté cérémoniel et civil était enlevé. Mais il a accompli la loi morale à la perfection durant toute sa vie. Ce qu'on appelle l'obéissance active. Donc, on lit dans le psaume 40, versets 7 et 8, « Alors je dis, voici je viens », bien sûr, dans le contexte, on parle de Jésus. Alors, il dit, « Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ésaïe 42, verset 21, « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. » Deuxièmement, de quelle façon il l'a accompli, la loi, il a souffert à la croix la punition de ceux qui l'ont transgressé, donc ses élus. Dans Galates, chapitre 3, verset 13, ça dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors, quand on était en lui et que lui était pendu au bois, on recevait la malédiction. Lui recevait la malédiction, mais puisqu'on était en lui, on se trouvait à la recevoir en même temps. Et troisièmement, il en a révélé la profondeur et l'ampleur. Alors, on sait qu'à l'époque, quand Jésus est venu, les pharisiens, les sadducéens, les gens comprenaient mal ce que c'était la loi. Pour eux, ça se résumait à une obéissance extérieure, comme Paul, avant son salut, croyait « Ah, je suis, au point de vue de la loi, là, impeccable. » Il pensait qu'il avait accompli toute la loi, puis qu'il était un observateur de la loi, jusqu'à ce qu'il comprenne l'ampleur de la loi, jusqu'à ce qu'il comprenne la profondeur de la loi. Alors, c'est ça que Jésus, quand il est venu, il a contribué à ouvrir l'esprit des Juifs pour leur faire comprendre que la loi, c'est beaucoup plus qu'une obéissance extérieure. Ça va jusque dans les pensées. Alors, on a ça dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, aller jusqu'à Matthieu 7, mais plus particulièrement les versets 21 et 22 de Matthieu 5, et aussi 27 et 28. Juste un exemple, on pourrait développer beaucoup plus que cela, mais cet exemple-là va être suffisant. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Voyez-vous, si tu as vraiment une obéissance extérieure. Si tu n'as pas tué quelqu'un, tu es correct, tu obéis à la loi. Mais là, lui, il va leur démontrer que ça va beaucoup plus loin que ça. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, imaginez-vous, qui s'est jamais mis en colère contre quelqu'un? Mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Voyez-vous, il est en train d'élargir la compréhension de la profondeur et de l'ampleur de la loi. Verset 27, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Alors vraiment, un juif de l'époque, s'il n'avait jamais couché avec la femme d'un autre, il se disait, « Ah, moi je suis correct sur ce commandement-là. » Mais gardez ce que le Christ dit. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors autrement dit, la loi, c'est plus que quelque chose d'extérieur, ça va jusque dans tes pensées. Si tu le fais dans ta pensée, le Seigneur dit, c'est comme si tu l'avais fait dans la réalité. Alors, quelque part, là, tu commences à comprendre l'ampleur de la loi dans chacune de ses dimensions, dans chacune de ses exigences. Alors, il en a révélé la profondeur et l'ampleur. Donc, il a fait trois choses. L'obéissance active, il a accompli parfaitement les exigences de Dieu face aux 10 commandements. L'obéissance passive, il a subi le châtiment qui était dû à la désobéissance, qui était attaché à chacun des commandements. Et en plus, il a ouvert l'esprit de son peuple à la compréhension de son ampleur et de sa profondeur. Alors, il a fait beaucoup de choses. Bon, on a regardé Matthieu 5, versets 17 à 19. On va regarder maintenant un autre passage, Romains 3, verset 31, dans la version Darby. Annulons-nous donc la loi par la foi, qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi. Alors, il est en train de dire, est-ce qu'on annule, quand on a la foi, est-ce qu'on est en train d'annuler la loi? Qu'ainsi n'advienne, c'est non. Alors, que voulait dire Paul par l'expression « nous établissons la loi » Il voulait dire que comme chrétiens, nous avons des raisons supplémentaires d'obéir à la loi morale parce que Dieu a donné aux croyants, par la nouvelle naissance, une certaine capacité d'obéir. Là, il faut bien comprendre que à cause que Dieu nous régénère, on a une certaine capacité d'obéir à la loi, mais non pas à la perfection, sinon... Alors, c'est une certaine capacité d'obéir, alors non à la perfection à cause de la vieille nature qui demeure en nous. Loin d'abolir l'autorité et l'usage de la loi pour le croyant, elle la soutient et la confirme. En passant, ces versets-là, je les ai tirés d'une étude faite par Arthur W. Pink. Lui, il va beaucoup plus en profondeur dans ses explications de chacun des versets. S'il avait fallu que je traduise ça, on aurait eu une leçon d'au moins 30 pages. Alors, j'ai retiré l'essentiel de ce qu'il dit. Mais s'il y en a qui voudraient avoir le document original pour pouvoir apprécier encore davantage tout ce qu'il dit, je vous le conseille, ceux qui lisent l'anglais. Troisième verset, Romains 7, versets 22 à 25. Alors, c'est Paul qui parle. Il dit « Je trouve donc en moi cette loi. » Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et dans le verset 25, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Autrement dit, on veut dans notre cœur, quand on est un véritable chrétien, toute notre être veut obéir. Si on était capable de le faire à la perfection, on le ferait. Mais à cause du fait qu'on a la vieille nature qui nous habite encore, bien là, on a une certaine capacité de l'accomplir, beaucoup plus forte qu'un païen, par exemple. Mais cependant, il nous manque des choses encore. Alors, l'apôtre Paul montre deux choses dans le chapitre 7 du livre de Romains. Premièrement, que judiciairement, le croyant est libéré de la malédiction de la loi. Alors, il faudrait reculer dans le chapitre 7, versets 1 à 6. Judiciairement, ça veut dire que Christ l'ayant subi à notre place, on n'a plus à le subir, parce que ça serait une double... On l'a subi, il y aurait eu une double punition. Alors, il y en a eu juste une. Lui, vu qu'il l'a pris, judiciairement, on n'est plus sous... on est libéré de la malédiction de la loi. Mais que moralement, on se doit d'obéir à la loi morale, donc on a dans les versets 22 et 25, il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Et dans le verset 25, il dit « Grâce soit rendue. » Alors, ainsi donc, il dit « Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Alors, la loi du péché, elle veut toujours prendre le dessus, mais si on obéit, Dieu permet qu'on ait de plus en plus de contrôle sur notre vieille nature. Romains, quatrième verset, Romains 8, versets 3 et 4 dans la version Darby. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Alors, ce verset jette de la lumière sur Romains 3:31, nous montrant en partie comment la loi est établie. Les références ici sont à la nouvelle nature que le croyant a reçue. Il a maintenant un cœur qui aime Dieu. Cela l'amène à dire, dans Romains 7:22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Alors, Dieu regarde au cœur tout en prenant note de nos actions. Mais dans son cœur, le croyant veut accomplir les saintes exigences de la loi morale de Dieu. L'être intérieur du croyant veut servir, plaire et glorifier l'auteur de la loi. Romains 13, versets 8 à 10. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait donc point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ce passage ne donne pas le moindre encouragement à l'étrange séduction que les 10 commandements sont devenus obsolètes pour les chrétiens. Le verset 9 cite 5 commandements et déclare ensuite que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour n'abroge pas la loi, mais elle l'accomplit. Toute la loi morale est fondée sur l'amour de Dieu, les 4 premiers commandements, et l'amour du prochain, les 6 derniers commandements. Donc, quand il dit l'amour, c'est l'accomplissement de la loi, si dans la loi, il y a un verset, par exemple, qui nous dit qu'on se doit d'être à notre culte le dimanche ou pour le jour du Seigneur et qu'on n'y est pas, on fait véritablement un manquement à l'amour. Parce que la preuve qu'on aime Dieu, c'est qu'on est là. Si on manque à quelque part, c'est qu'on fait passer d'autres choses avant Dieu, donc on fait un geste d'idolâtrie en quelque sorte. Là où il y a l'amour, il y a l'obéissance au décalogue. Les restrictions de la loi morale ne sont pas déraisonnables sur la liberté chrétienne et expriment les justes et sages exigences de l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 22. « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec eux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Alors, la loi de Dieu, les 10 commandements ou le décalogue et la loi de Christ, comme on le voit dans le verset 21, sont synonymes. Autre verset, Galates 5, versets 13 et 14. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer son prochain implique l'obéissance aux 6 derniers commandements qui précisent nos devoirs envers notre prochain. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter, ne pas dire de faux témoignages, etc. Alors, c'est pas simple. Les quatre premiers commandements qui sont dans la première table, c'est nos devoirs envers Dieu. Et manquer à un de nos devoirs envers Dieu est plus grave que manquer d'un de nos devoirs envers les hommes. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. « Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Voyez-vous, on est rendu dans Éphésiens. Donc, normalement, si la loi n'aura pas de place, dans la vie du chrétien, est-ce que Paul aurait dit « Honore ton père et ta mère » quand c'est le premier commandement avec une promesse? C'est clair, me semble. Alors, nous avons ici une citation du Décalogue, le verset 2, « Honore ton père et ta mère », qui a été citée comme une indication que la loi morale est régulatrice de la conscience et de la conduite. Paul, l'apôtre Paul, s'adresse ici à des chrétiens. Alors, c'est vraiment spécial, ce verset-là. 1 Timothée, chapitre 1, verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Alors, un usage illégitime de la loi serait de chercher à gagner la faveur de Dieu pour son salut en supposément être capable de lui obéir. Un usage légitime est qu'elle est l'expression immuable de la volonté de Dieu et un standard de moralité et un code de conduite. Et vous, un usage illégitime, ce serait essayer de gagner mon salut en l'observant. Un usage légitime, c'est de savoir qu'elle a encore sa place dans la vie du chrétien après son salut. Alors, quand il dit « nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Si tu en fais un usage illégitime en disant « je vais l'observer et par ça je vais gagner mon salut », c'est vraiment un usage illégitime. Hébreux, chapitre 8, versets 8 et 10, « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » La nouvelle alliance, bien entendu, on pourrait développer beaucoup là-dessus, n'est pas restreinte aux Juifs. Alors ça, c'est bien important parce qu'il y a beaucoup de passages où on parle de la Nouvelle Alliance et que les croyants du Nouveau Testament sont dans l'Alliance. Alors quelque part, quand il dit « je mettrai mes lois dans leur cœur », il ne parle pas uniquement des Juifs. Il parle des Juifs et de tous ceux qui sont en Christ. Jacques chapitre 2, versets 8 à 13. « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Voyez-vous, on est dans Jacques, là. Il dit que si on fait exception de personne, on manque à la loi et on devient un transgresseur de la loi. Si elle n'a plus de la place dans la vie du chrétien, pourquoi que Jacques l'assisterait comme ça? Alors, il dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Alors, le verset 11 parle clairement du décalogue et on voit que Jacques s'adresse à des chrétiens, comme il est clairement indiqué dans Jacques 1, 18, il faut reculer un petit peu, dans Jacques 1, 18, où il avait dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous ne soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Il est en train de parler à des chrétiens puis il lui parle de la loi, donc à quelque part... 1 Jean 2, chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Alors, il nous est rappelé ici que le chrétien doit réguler sa marche sur celle de Christ. Le psaume 40, verset 8, nous dit que le Christ avait la loi dans son cœur. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Psaume 119, versets 72 et versets 96 et 97. « Mieux vaut pour toi la loi de ma bouche que mille objets d'or et d'argent. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Alors, ça termine l'ensemble des versets qu'on voulait montrer. Alors, pour démontrer que, dans le fond, c'est notre position, elle est claire, elle est vraiment exprimée de façon très détaillée dans le chapitre 19 de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Alors, j'ai pris cette partie-là de notre Confession de foi et on va la lire ensemble pour bien démontrer que c'est vraiment notre position qui est claire, parce qu'on dit officiellement dans tous nos documents qu'on adhère à la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Voici ce qu'elle dit au chapitre 19, la loi de Dieu. Dieu a donné à Adam une loi d'obéissance universelle inscrite dans son cœur, et en particulier le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par lequel il l'obligeait, lui et toute sa postérité, à une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle, lui promettant la vie s'il l'accomplissait, et le menaçant de mort s'il y contrevenait. Il lui avait donné le pouvoir et la capacité pour l'observer, mais ça c'est avant la chute. Et vous avez bien entendu dans le texte, il y a toutes sortes de petits chiffres à côté des affirmations qui ramènent à des versets. Bien entendu, on nommera pas tous ces versets-là ce matin, là, parce que c'est juste de voir comment c'est exprimé dans la Confession de foi et que chacune des phrases qui sont énoncées ont des versets pour prouver leur validité et leur vérité. Le deuxième chapitre, le deuxième, c'est-à-dire paragraphe du chapitre 19. Cette même loi, qui a d'abord été inscrite dans le cœur de l'homme, est demeurée une parfaite règle de justice après la chute et a été transmise par Dieu sur le mont Sinaï en 10 commandements, écrits sur 2 tables, les 4 premiers commandements décrivant nos devoirs envers Dieu, les 6 derniers, nos devoirs envers l'homme. Troisième paragraphe, en plus de cette loi dite morale, il a plu à Dieu de donner au peuple d'Israël des lois cérémonielles qui contiennent plusieurs dispositions typiques, les unes pour le culte, préfigurant Christ, ses qualités, ses actes, ses souffrances et ses bienfaits, les autres contenant des enseignements en rapport au comportement moral. Toutes ces lois cérémonielles, imposés seulement jusqu'à un temps de réforme, ont été enlevés et abrogés par Jésus-Christ, le vrai Messie et le seul législateur qui a reçu sa puissance du Père à cette fin. Quatrième paragraphe, Dieu leur a aussi donné diverses lois judiciaires qui ont expiré en même temps que le peuple juif cessait d'être un État. Ces lois n'ont plus aucune obligation de nos jours, leur équité générale étant d'un usage moral seulement. Ce qu'on avait mentionné la semaine passée, c'est pas qu'à l'intérieur des lois cérémonielles sont abrogées, et les lois civiles aussi, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une leçon morale pour nous aujourd'hui. Il faut pas quand même, comme ils disent, jeter le bébé avec l'eau du bain. Cinquième paragraphe, la loi morale oblige à l'obéissance pour toujours, tous les hommes, qu'il soit justifié ou non. Cela non seulement en rapport à son contenu, mais aussi concernant l'autorité de Dieu le Créateur qui l'a donné. Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. Sixième paragraphe, voyez-vous, on est en train de regarder comment un ensemble de théologiens, de pasteurs se sont réunis, ont réfléchi à cette question-là, ils l'ont exprimée, ils l'ont énoncé par écrit et ils ont mis des versets pour défendre leur point, leur position. Alors, c'est vraiment important. Parfois, on dit qu'on adhère à la Confession de foi 789. Je serais curieux de prendre les croyants un par un puis de lui poser des questions s'ils comprennent tant que ça. Alors, il faut qu'à quelque part, on se donne la peine. Je pense qu'on va faire éventuellement, comme Pascal a fait, on va prendre la Confession de foi 1689 et on va la traverser d'un bout à l'autre en l'étudiant plus en profondeur. C'est beau de dire qu'on y croit, mais il faut quelque part comprendre ce qu'elle dit. Alors c'est ça qu'on va essayer de faire plus tard. En tout cas, pour le moment, on veut juste regarder comment la Confession de foi exprime quelle est la place de la loi dans la vie du chrétien après son salut. Sixième paragraphe. Bien que les vrais croyants ne soient pas sous la loi en tant qu'alliance des œuvres pour être justifiés ou condamnés, elle leur est cependant d'une grande utilité comme elle l'est aux non-croyants. En tant que règle de vie, elle leur enseigne la volonté de Dieu et leurs devoirs, elle les dirige et les oblige à s'y conformer. Elle leur fait aussi découvrir les pollutions coupables de leur nature, de leur cœur et de leur vie, de telle sorte qu'en s'examinant eux-mêmes, ils puissent en arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s'en humilier et à le haïr, et aussi à acquérir une plus claire vision de leurs besoins de Dieu, de Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu'elle interdit le péché, la loi est également utile aux régénérés pour qu'ils réfrènent leur corruption. Ces menaces servent à leur montrer ce que leur péché mérite et à quelles afflictions ils peuvent s'attendre en cette vie, bien qu'ils soient délivrés de la malédiction et des rigueurs sans indulgence de la loi. De même, ces promesses leur montrent que Dieu approuve l'obéissance et leur font connaître les bénédictions auxquelles ils peuvent s'attendre en les pratiquant, non toutefois comme un dû de la loi en tant qu'alliance des œuvres. C'est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal, parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre, n'est en rien une preuve que la personne soit sous la loi et non pas sous la grâce. Alors, on est en train de regarder à peu près l'ensemble des idées qu'on a vues dans les leçons précédentes. Et le septième et dernier paragraphe du chapitre 19. Les usages de la loi mentionnés ci-dessus ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. L'Esprit de Christ soumet la volonté de l'homme et la rend capable de faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu révélée dans la loi exige de faire. Alors ça, ce serait bon que quelqu'un se donne la peine d'étudier ça en profondeur, parce que, comme on a vu la semaine dernière, une mauvaise compréhension du rôle de la loi dans la vie du chrétien après son salut peut mener vers des erreurs qu'on a nommées la semaine passée, on a nommées 7 ou 8. Juste bien connaître le chapitre 19 et bien l'avoir saisi, ça nous empêcherait de faire bien des erreurs. Alors j'ai mis des applications suite à la leçon qu'on vient de voir. Alors la première application, il nous faut connaître les trois grandes positions qui ont été promues au cours des siècles passés sur la question « Est-ce que le décalogue, les 10 commandements ou la loi morale lie le chrétien? » Sommes-nous capables de réfuter les deux positions qui sont fausses? Le légalisme, qui prétend que l'homme peut gagner son salut et être réconcilié avec Dieu par l'obéissance aux 10 commandements. Et l'autre position qui est également fausse, l'antinomisme, qui prétend que la loi morale est annulée et que le chrétien n'est pas lié par elle. Sommes-nous convaincus que le décalogue lie le chrétien comme règle de vie, comme standard de conduite? C'est la position défendue par les réformateurs, les puritains et les réformés baptistes, et fort probablement d'autres groupes, là, mais j'ai mis les plus représentatifs. Donc les réformateurs, si vous regardez leurs œuvres, ils défendaient notre point de vue. Les puritains, qui est un groupe qui était reconnu pour leur sainteté, l'ont défendu également. Et les réformés baptistes depuis 1689, ceux qui sont fidèles à... C'est bien beau de dire qu'on croit à la 1689, mais si quelque part on ne met pas en application ce qui est dit dans la 1689, c'est une fausse affirmation. Deuxième application, prenons le temps d'étudier le chapitre 19 de la Confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689, qui énonce clairement la position de notre Église locale, de l'Association de l'Église réformée baptiste du Québec, AERBQ, et aussi de l'Association Association of Reformed Baptist Churches of America, ARBCA, et fort probablement d'autres groupes, j'ai mis les plus importants que nous on connaît, que notre grand Dieu nous rende vigilants pour garder la vérité tant en matière de doctrine que de pratique. Amen.